With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de découvrir le parcours de Mélanie Hassel, qui est quintuple championne de France de voltige aérienne et a fini plusieurs fois dans le top 10 des championnats du monde et d'Europe de voltige. La voltige, c'est cette discipline qui consiste à faire faire à un avion des loopings et des figures et des tours sur lui-même à toute vitesse. Et donc Mélanie, c'est son métier. Elle fait faire ça à un avion. Voilà. Dans cet épisode, on retrace ensemble son parcours, depuis cette enfance où elle se souvient qu'elle a toujours voulu voler, jusqu'à cette rupture scolaire qui l'a amenée à quitter le lycée, à aller bosser dans une station essence, avec un objectif qui s'est précisé petit à petit. Elle voulait apprendre à piloter un avion. Comment a-t-elle financé tout ça avec une paye de pompiste? Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais faire des loopings à ton avion? Comment Mélanie s'en est sortie malgré les conseillers d'orientation? Comment tu gagnes ta vie en tant que pilote à ce niveau? Autant de questions auxquelles Mélanie répond dans cet épisode. Un grand, grand merci à elle pour sa confiance. J'espère que cet épisode vous en apprendra plus sur cette discipline méconnue qu'est la voltige. Êtes-vous abonné à ma newsletter? Oui, c'est une question un peu rhétorique, mais si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode. Je vous enverrai un nouvel email tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois pour chaque nouvel épisode d'Histoire de Daron, mon autre podcast où je donne la parole à des pairs. Je partagerai avec vous des réflexions, des lectures et bien sûr mes derniers épisodes de podcast. Concernant ce podcast, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin pour une nouvelle histoire de succès, mais d'ici là, abonnez-vous au podcast, venez mettre un commentaire sur www.histoireavecunsdessuccès.com, mettez une bonne note sur Apple Podcasts et un bon commentaire sur vos applis de podcast préférés, c'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Je vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie de Mélanie.
Oui, ouais. Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 37 ans, tout va bien aujourd'hui, je suis à Paris, je suis tellement heureuse d'être ici, c'est génial.
On sent un peu de... Un peu d'ironie.
C'est formidable.
Et puis en général, je démarre l'interview comme ça, tu vois. Donc là, par exemple, on est parti. Pourquoi t'aimes pas Paris?
Pourquoi j'aime pas Paris? Ouais. J'ai envie de dire, moi je suis une fille de la campagne, donc j'aime bien la tranquillité, le calme. Mais après, dans mon travail, je suis quand même amenée à rencontrer beaucoup de gens, à être dans des endroits très peuplés, on va dire. Donc quand je rentre chez moi, je suis contente d'être un peu au calme et voilà.
Tu vis dans le sud, c'est ça, aujourd'hui?
Oui, je vis dans le sud, dans les Alpilles, du côté de Saint-Rémy-de-Provence, exactement.
Ça doit être sympa.
C'est très sympa, c'est très beau, il fait une belle météo, sauf ouais. En ce moment, ça fait un mois qu'il fait moche, mais en général, il fait plutôt beau temps et ça me permet de m'entraîner avec mon avion
oui, c'est ça,
un peu plus souvent que si j'étais à Paris, on va dire.
Oui, j'imagine que il faut du beau temps quoi, pour que tu puisses faire ton métier, quoi.
Oui, alors beau temps, pas forcément, mais il faut quand même des conditions météo...
pas trop de nuages.
Voilà, intéressantes. En fait, je suis la seule femme à faire les courses d'avion okay. Red Bull Air Race.
Okay.
Et en voltige acrobatique, on est en ce moment, on était 7 femmes au championnat du monde. En total.
Sur combien de participants?
Sur 62.
On a peu de parité, quoi.
Oui, voilà, c'est... on n'est pas très nombreuses.
Avant de parler un petit peu de ce métier, de comment t'en es venu là, j'aimerais bien savoir à quoi ressemblait Mélanie quand t'avais 7-8 ans, quoi.
Alors, Mélanie, quand elle avait 7-8 ans, ouais. C'était une fille très timide, très, on pourrait dire, insociable même.
Okay.
J'avais tendance à me cacher dans les placards quand on prenait des photos. Enfin, voilà, j'étais plutôt renfermée.
Ouais.
Par contre, la Mélanie de 6-7 ans, elle avait ce rêve, c'était celui de voler. Alors de voler tout
alors,
simplement.
Déjà.
Oui, déjà. Eh ben, c'est arrivé à cet âge-là, je dirais, à peu près vers 6-7 ans, j'ai eu ce qu'on appelle l'étincelle, le coup de foudre. Et depuis ce jour, ça ne m'a pas quitté. J'ai toujours eu envie donc, de monter là-haut.
Comment ça se passe à 6-7 ans? Est-ce que tu as un moment donné, un truc qui se déclenche en toi, qui fait « Ok, ça c'est mon métier », tu montes dans un avion qui te fait dire « Ok, c'est ça ma vie », comment?
Alors, j'ai pas un souvenir précis. J'en ai un petit qui me vient. C'est effectivement de m'être assis dans un avion lors d'un meeting aérien où m'avaient amené mes parents. Je m'étais assis dans cet avion de chasse, en fait, et j'avais regardé les avions voler. Et là, j'ai eu un espèce de déclic où je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'ai aussi une petite anecdote. C'est maintenant le film L'Histoire sans fin, où on voit le jeune Atriou qui se balade sur son dragon magique au travers des paysages, sur la mer, les montagnes, etc. Et en fait, en quelque sorte, je me suis approprié un peu ce personnage en me disant « Moi aussi, plus tard, je voudrais faire ça et avoir mon dragon et me balader à travers les montagnes, au-dessus de la mer, à toute vitesse. » Donc peut-être qu'il y avait un symbole dans ce film qui m'a amené aujourd'hui où j'en suis.
Est-ce que tes parents, ils t'ont amené dans ce meeting aérien parce qu'en fait, c'était un peu leur passion aussi? Parce que c'est pas forcément un truc dans lequel t'amènes tes enfants de base, quoi. Tu vois, j'ai un peu envie de dire. Non?
Ils
font quoi tes parents?
Alors, mes parents donc sont retraités maintenant. Ils étaient professeurs, en fait. Mon papa était professeur de maths et maman professeur de langue. Donc, rien à voir avec l'aéronautique. En fait, j'ai personne dans ma famille qui a un lien avec l'aéronautique. Donc, ça m'est vraiment venu. Souvent, c'est des gens qui ont déjà fait ça à travers leurs parents, qui ont la culture aéronautique. Mais bon, moi, je suis née en Angleterre, en fait. Je suis anglaise d'origine. J'ai la double nationalité. Papa anglais, maman française. Et en fait, en Angleterre, c'est une culture assez élevée. Enfin, les gens sont vraiment fans d'aviation et l'aviation classique est conservée là-bas. Et du coup, c'est très fréquent qu'il y ait des meetings aériens et c'est très populaire. Donc, on était allé se balader là-bas.
Un peu par hasard.
Un peu comme un dimanche, on ne sait pas où aller, on va se balader par là.
D'accord. Et donc, comment ça se passe dans ta vie entre le moment où tu montes donc dans cet avion, où tu regardes l'histoire sans fin et où tu... À la base, tu voulais devenir pilote de chasse, c'est ça? C'était ton truc?
Oui, alors, moi, j'étais fan de... Alors, en fait, j'avais envie de voler. Je sais pas expliquer comment, de voler, tout simplement. Et j'ai toujours aimé la vitesse, l'adrénaline, la Formule 1, la moto, tout ce qui était vraiment sport mécanique me plaisait. Donc, vitesse, adrénaline, plus voler, forcément, c'était pas trop, à la base, pilote de ligne. Donc, j'ai tout de suite été attiré par la puissance, la vitesse, tout ce que pouvait faire un avion de chasse, et le côté un peu guerrier aussi, le côté qui m'attirait, l'adrénaline, le côté pilote de chasse.
Ça te vient d'où dans ton éducation, l'idée de te dire « Ok, j'aime la vitesse, j'aime l'adrénaline, j'aime la moto, la Formule 1 », ce qui sont pas spécialement des métiers de fille, entre guillemets, hein, désolé pour le truc, mais en attendant, peut-être que le fait que vous soyez si peu nombreuses aussi, c'est à faire votre métier là actuellement, c'est peut-être dû à ça aussi. Il y a un truc dans ton éducation qui t'a amené à aller vers ça.
Alors oui, c'est une question intéressante parce que on me la pose assez souvent. C'est souvent moi qui suis censé avoir la réponse. Pourquoi il y a si peu de femmes? Mais en même temps, ça m'a permis de beaucoup y réfléchir puisqu'on m'a posé la question. Je sais pas pourquoi on a peu de femmes dans ce genre de discipline et pourquoi les femmes sont peu attirées. En MotoGP, il n'y a pas de femmes. En Formule 1, il n'y en a pas. Moi, j'étais la seule dans la discipline course d'avion. Je pense que après, c'est vraiment un caractère qui fait ça. Moi, j'ai toujours eu ce goût, même avec mes rollers, avec mon vélo. Enfin, j'ai toujours fait des cascades. Donc, je pense que je l'ai en moi. Après, ça m'empêche pas aussi d'être très féminine à mes moments. Et du coup, c'est ça qui est étonnant, c'est que en fait, j'ai l'impression qu'il y a peu de femmes qui ont cette fibre-là. Alors, mes copines qui font la voltige le sont aussi, hein, mais on n'est pas très nombreuses.
Ça vient de ton éducation? Tes parents t'ont peut-être, amené à être casse-cou et peut-être n'ont pas eu peur, je sais pas. Peut-être, moi, dans ma tête, on laisse toujours faire plus de conneries à des garçons qu'à des petites filles, parce qu'en fait, on se dit, ok, les garçons, c'est des garçons, et donc ils sont obligés de faire des bêtises, quoi, tu vois, alors que les filles, on leur dit, attention, tu vas te péter un truc, quoi, j'en sais rien. Moi, ce qui est une connerie, hein, tu vois, je suis pas en train du tout de dire que c'est ça qu'il faut faire. Moi, mes filles, elles sont...
C'est vrai que c'est complètement atypique parce qu'effectivement, mes parents se marreraient en entendant ce que je suis en train de dire, ce qu'on est en train de dire. Ouais. Parce que non, ils sont plutôt du genre très prudent. Ils m'ont toujours poussé à la prudence. Quand j'ai dit que je voulais être pilote, papa, c'était tu devrais plutôt faire traductrice ou avocate ou un truc sérieux, quoi.
Ouais.
Donc, on a toujours cherché à me faire faire autre chose que ça.
Okay.
Alors après, c'est ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel ils m'ont pas poussé du tout. Après j'ai mes cascades, etc. Alors mon frère à l'inverse était très prudent, donc c'était un peu l'opposé. Mais bon, après c'est vrai que j'ai pas été poussé à réaliser des cascades, hein. C'est vraiment parce que quand je décide de faire un truc, je le fais, mais il a fallu que j'aille contre ce qu'on me demandait de faire.
Oui, contre la culture familiale aussi. reste derrière un bureau, c'est beaucoup mieux pour toi. Rater un peu comme ça. Entre le moment où tu te découvres là et le moment où tu te dis « Ok, je veux devenir pilote de chasse », c'est quoi la progression en fait qui t'amène à devenir ce que t'es aujourd'hui ? Par exemple au collège-lycée, quoi. T'as un hobby en particulier ?
Non, alors après j'ai mon meilleur ami d'enfance avec qui on joue aux voitures, aux avions, on collectionne les magazines d'avions, les maquettes, on connaît tout par cœur. Donc là effectivement j'ai mes fiches d'avions de chasse, je connais tout, les vitesses, les envergures. Enfin j'avais vraiment, on pourrait dire hyper focalisé sur la chose, donc je connaissais tout. Et j'étais, voilà, le film Top Gun c'était mon film culte. Donc voilà, j'étais, c'était une obsession, hein, c'était plus qu'une envie, c'était vraiment, il n'y avait pas autre chose dans la vie que je voulais faire. Donc bon, après quand on a 6, 7, 10 ans, 12 ans, c'est pas encore le moment de choisir. Mais c'est sûr qu'arrivé au moment de décider, là j'ai dû faire face à toutes les forces maléfiques qui m'empêchent de réaliser mes rêves. Donc c'est-à-dire le conseil d'orientation, les parents, les stéréotypes qui font que c'est pas pour les filles. Alors faut savoir que donc c'était aux alentours de 97-98, ouais. Il y avait une femme dans l'armée de l'air, c'était la première femme pilote de chasse, Caroline Aigle, mais il n'y avait pas trop d'internet, donc moi ce qu'on me disait c'était que c'est pas pour les femmes déjà, donc c'est pas une discipline ouverte aux femmes, enfin un métier ouvert aux femmes, et on a plutôt cherché à me dire que c'était pas possible. Quoi. Ouais. Donc,
il n'y avait pas ce podcast par exemple où toi t'es en train de raconter peut-être à une gamine qui a 14-15 ans que c'est effectivement possible de le faire quoi.
Exactement, et je m'en fais une mission de promouvoir le fait que les femmes peuvent intégrer ce genre de métier, que ce soit pilote de ligne, pilote de chasse, voir la voltige comme je fais ou les courses d'avion, et du coup ne pas se mettre de barrière parce que c'est quand même un milieu accessible et ouvert aux femmes. Je pense que voilà, faut pas se dire que c'est pas possible. Je suis très contente d'être la seule femme dans les courses parce que j'ai l'impression vraiment de montrer aux femmes qu'elles peuvent accéder à des milieux élitistes qui sont dits masculins, mais que finalement, voilà, moi je suis très bien accueillie dans la discipline et qu'elles font si elles ont envie de le faire.
Oui, personne ne te regarde mal parce que tu es une femme, en fait. Je pense qu'à un moment donné, c'est juste les résultats qui comptent, quoi, c'est ça ?
Oui, exactement. Alors après, bien sûr, au début, il y a toujours un peu les réflexions, elle est là parce que c'est une fille, etc. Mais très rapidement, quand on prouve que j'ai prouvé que voilà, je savais voler comme les hommes, du coup, il y a un respect entre pilotes qui se met en place et voilà, ça passe très très bien.
Quand tu dis que tu as dû te battre contre les démons qui t'entouraient, donc tu parlais du conseil d'orientation, etc. Comment tu as fait pour combattre ça, justement ?
Alors, j'ai très mal fait, en fait, au début, puisque je suis tombée assez bas, on va dire, moralement, parce qu'on m'a découragée et que pour moi, c'était fini, je ne pouvais pas le faire. Donc, en gros, je suis passée de première de la classe à dernière. Hein, donc, j'ai tout lâché, je rendais des feuilles blanches. Enfin, j'avais plus envie.
Et quel âge, là, c'était
j'avais bon, c'est comme à 16-17 ans, okay. Voilà. Alors bon, c'est vrai que mes parents étaient en instance de divorce à ce moment, donc il y a eu une situation familiale un peu difficile aussi. Mais du coup, voilà, ça m'a, il y a eu comme dans les belles histoires la période down, quoi, la mauvaise période. Et donc j'ai quitté le lycée très tôt, donc juste en début de terminale.
Okay.
Et donc ça m'a pris le matin comme ça. J'ai dit, je m'en vais, salut, et je suis partie. Et donc ça a été une décision vraiment impulsive en fait de ma part, mais aujourd'hui si je devais la refaire, je reprendrais la même. Je suis quand même très instinctive et j'ai senti qu'il fallait que je fasse ça. J'ai tout fait dans le système scolaire, il m'a jamais correspondu en fait. Et donc du coup j'ai retrouvé un travail dans, pas de la journée mais le lendemain je crois. Donc je me suis retrouvée de scolarisée à caissière de station-service,
okay.
Dans une petite station-service à Roquebrune-Cap-Martin dans le sud de la France, voilà.
Et qu'est-ce que te disent tes parents à ce moment-là ? Ils sont, j'imagine, un peu désappointés pour toi, ceux qui voulaient que tu deviennes avocate.
Oui, alors bon, déjà, ça avait un peu commencé à mal se passer, on va dire, les 2 ans auparavant, ouais. Parce qu'il y avait la crise d'adolescence, il y avait voilà, le divorce, etc. Donc finalement, moi, la situation de divorce a fait aussi que j'ai pris le pouvoir, en quelque sorte, dans le sens où je me suis fait ma vie à moi, et voilà, enfin, si c'était à refaire aussi, je ferais un peu plus gaffe. Mais bon, cette période-là était un peu difficile. Mais bon, après, mes parents, oui, ils étaient forcément... J'avais pas de quoi me mettre dans leur tête à ce moment-là. Mais aujourd'hui, avec le recul, j'y réfléchis. Ça devait être horrible pour eux parce qu'ils n'avaient pas le contrôle de la situation. Moi, je suis partie après à 18 ans avec une personne. Et on savait pas qui était cette personne. Et mon père m'a juste vu partir et... Il savait pas où, quand, comment, avec qui. Enfin, donc c'était pour lui très. Enfin, c'est un très mauvais souvenir, on va dire.
Ok. Surtout que t'étais bonne élève, d'après ce que t'avais l'air de dire, quoi.
Oui, exactement. En plus, j'avais, on va dire, j'avais un potentiel, quoi. J'avais mon potentiel, des capacités. Et mais bon, c'est aussi ce potentiel qui a fait que je savais que je m'en sortirais dans une autre situation, en fait.
Comment tu fais pour accrocher ton job de caissière dans une station-service à devenir, en tout cas, à aller vers le milieu de l'aéronautique, quoi, à ce moment-là?
Eh bien, oui, voilà. Donc, à 18 ans, je me retrouve dans cette station-service, caissière. Et ouais, c'était un moment, une période difficile de ma vie, parce que là, les rêves étaient inaccessibles, lointains, et c'était comme si, voilà, c'était fichu. Cela dit, dans ce domaine de la station-service, j'ai vite évolué, puisque à 19 ans, j'étais déjà gérante d'une station-service. Alors, il faut savoir que je suis du sud de la France, donc j'ai été élevée du côté de pas très loin de Monaco, en fait. Et du coup, je me suis retrouvée à Rouen, à l'autre bout de la France, à 19 ans, à gérer une équipe de 4 personnes, des personnes de 45 ans. Enfin, voilà, je me suis retrouvée une fille dans un milieu d'hommes, parce que station-service, ça reste très masculin, la gérante. Donc je me rappelle encore de clients qui commençaient à s'énerver et tout et qui me disaient « je veux voir le patron ». Et je disais « bah c'est moi ». Et ils me disaient « non mais je veux voir le patron ». Enfin, ils voulaient voir un homme en fait, quoi. Un homme plus âgé. Donc là, la petite jeune de 19 ans, c'est sûr que c'était, pour eux, c'était pas concevable. Mais voilà, je m'en suis bien sortie dans ce métier. Donc j'ai fait ça pendant 7 ans en tout. Et pour en revenir à comment je suis devenue pilote, eh bien c'est en gagnant un peu ma vie que je me suis retrouvée à l'âge de 21 ans sur une station-service à Lyon-Bron. Et en voyant les avions voler, je me suis dit, là, il faut que j'aille voir, que j'aille me renseigner.
Je ne sais pas ce que c'est Lyon-Bron, c'est où?
C'est Lyon-Bron, c'est la plateforme qui est à côté de Lyon, en fait.
Okay,
c'est
d'accord.
La ville de Bron, mais ça s'appelle l'aéroport de Lyon-Bron.
Ok, donc c'est à côté de l'aéroport, c'est ça?
L'équivalent du aéroport du Bourget de Lyon.
Ok, en fait, d'accord. Voilà, désolé pour les gens qui sont de Lyon. D'accord.
Pas de soucis.
Ok, donc en fait, en voyant les avions, tu t'es dit, ok, il est temps d'y aller, quoi, de revenir à mon rêve de gamine, c'est ça?
Exactement, donc à l'âge de 21 ans, je vais taper à la porte de ce qu'on appelle un aéroclub. Et je tombe sur... Alors, mon parcours est quand même fait de rencontres de personnes exceptionnelles et formidables. Et comme beaucoup de gens qui ont eu des succès, je pense que le succès, c'est jamais seul, en fait. C'est vraiment rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Mais ça aussi, on peut le provoquer quand on est dans la bonne énergie. Je pense qu'on trouve les bonnes personnes, en fait. Et du coup, je rencontre donc Jacques, qui s'appelle, et il m'explique... il passe la journée avec moi, enfin, la demi-journée avec moi. Et ben voilà, je me retrouve inscrite pour commencer des cours de pilotage. Alors que j'étais juste venue comme ça me renseigner et bah voilà, je me retrouve inscrite et le lendemain, je crois, je faisais mon tout premier vol à l'âge de 21 ans.
Waouh. Donc là, ça y était parti.
Oui. Ouais, c'était le décollage en fait, ouais. Le décollage. Alors 21 ans, c'est assez tard, on va dire pour il y en a qui peuvent commencer à 12-13 ans hein, à voler. Bon, c'est pas trop tard, c'est pas trop tôt, mais après, je savais que, quoi qu'il arrive, j'allais mettre des années à arriver où je voulais arriver. Mais quand j'ai commencé à voler, pour moi, j'étais gérante de station-service et je faisais des cours de pilotage pour le loisir, en fait.
Okay.
J'étais pas partie pour...
T'es pas partie pour te dire avec un objectif clair de « ok, je veux commencer à... »
Non, parce que je pensais que c'était pas pour moi. Enfin, je pensais que c'était pas de mon niveau. Je pensais que c'était pour des gens qui avaient Bac plus 5, que c'était qu'il fallait être multimillionnaire. Enfin, voilà, j'avais toutes ces... a priori qu'on m'avait mis dans la tête, en fait, tout simplement.
À l'époque du lycée, donc, c'est ça.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis du coup, je pensais vraiment que c'était inaccessible, enfin, que c'était pas à ma portée. Et là, du coup, ben, je commence à voler, ça se passe vraiment, vraiment bien. Alors j'avais une petite angoisse en commençant, parce que je me suis dit que si j'aimais pas ça, ça allait être un drame, parce que quand on se dit, pendant toutes ces années, c'est mon truc et que ça marche pas. Et en fait, non, du jour où j'ai fait mon premier vol, waouh, ça a été... l'émerveillement complet, enfin ça s'amplifie même encore aujourd'hui. J'aime de plus en plus ce que je fais, donc oui, c'est vraiment ça a été un déclic numéro 2, on va dire. Et là, bah pareil, je suis tombée sur mon instructeur Laurent qui m'a formé un peu à la dure. Hein. Il a vraiment fait en sorte que je fasse mon brevet de pilote privé dans le minimum d'heures imparties, c'est-à-dire qu'il faut 45 heures. Et du coup, j'avais très peu de budget pour me payer mes heures, donc je les ai payées les unes après les autres, comme j'ai pu. Et du coup, j'ai réussi à avoir le brevet de pilote privé, donc à l'âge de 21 ans, en fait. Voilà, ça m'a mis 8 mois en tout pour le passer.
Donc le brevet de pilote privé, ça te permet de pouvoir voler toute seule, c'est ça?
Oui, le bruit de cloud privé, ça permet
je
de pouvoir.
Je connais rien, et je pense que les
voler...
gens qui vont.
Oui, c'est pour ça. Ça permet, en fait, ça permet de pouvoir voler tout seul dans tout le territoire européen.
Ok.
Voilà, faut savoir qu'on peut le passer à l'âge de 17 ans. Donc ça veut dire qu'un jeune de 17 ans peut voyager dans toute l'Europe en avion avant qu'il puisse avoir son permis de conduire.
Oui.
Donc c'est assez c'est assez rigolo ça, parce que ça arrive des fois qu'il y ait des tout jeunes qui puissent accéder à un poste de pilotage si jeune. Donc c'est quand même plutôt marrant quoi, comme anecdote.
Okay. Et comment tu fais donc une fois que tu commences à voler comme ça par tes propres ailes, à pouvoir voler par tes propres ailes comment t'en arrives petit à petit à la compète quoi? Comment ça se passe? C'est quoi le... Parce que tu fais ça depuis combien de temps là?
Eh bien, alors la compétition de voltige, j'ai commencé à 25 ans.
Ok.
Donc en fait j'ai... Alors quand j'ai commencé à... Donc j'ai eu mon brevet à 21 ans. Ensuite je me suis concentré sur la partie ce qu'on appelle le mûrissement. Alors pour devenir pilote professionnel, il faut 200 heures minimales. Donc ces 200 heures, il faut les payer. Donc là, je travaillais et dès que je pouvais me payer une heure de vol, j'allais me payer une heure de vol pour essayer d'arriver à ces 200 heures. Et en fait, entre-temps, il y a la Fédération Française Aéronautique, en partenariat avec Midi Pyrénées Voltige, c'est un club de voltige, ils ont organisé un concours pour accéder à un stage pour les jeunes de moins de 25 ans de voltige aérienne. Donc du coup, je me suis dit, je vais tenter le coup. J'ai pris ma plus belle plume, j'ai écrit une lettre de motivation et j'ai été prise à ce stage. Donc je me rappelle très bien de ce moment quand j'ai été prise à ce stage parce que c'était un moment financièrement très difficile pour moi puisque j'ai une vieille Toyota Corolla de 1987 je crois, que j'ai toujours d'ailleurs. Et en fait elle avait le joint de culasse cassé et j'étais sous la pluie dans ma voiture, j'étais en train de pleurer, je savais pas comment j'allais pouvoir payer ça. C'était juste impossible. Et là, j'apprends que je suis prise sur ce stage. Et en fait, je suis passée de vraiment la tristesse de pas pouvoir gérer sa vie à « waouh, là, c'est le plus beau cadeau du siècle qu'on m'ait fait ». Et du coup, voilà comment j'ai commencé. J'ai fait ce stage. Et en fait, en très peu de temps, j'ai vraiment été à l'aise. J'ai été ce qu'on appelle lâcher, c'est voler seul, en fait.
Okay.
Donc, j'ai lâché en voltige. J'ai fait toutes les figures de base toute seule dans l'avion comme une grande. Et là, les gens du club m'ont dit « Tu fais ça vraiment bien, est-ce que tu voudrais pas faire de la compétition ?»
Ok.
Donc voilà comment c'est parti, en fait, un stage.
C'est peut-être sans doute le moment d'expliquer en quoi consiste exactement la voltige, parce que pour l'instant, on l'a pas encore fait. C'est quoi la différence entre prendre ton avion et aller te balader comme tu l'as fait avec tes 200 heures, etc., etc., « Ok, mais désormais, je fais de la voltige ?»
Alors la voltige c'est vraiment c'est un sport, c'est donc le principe de la voltige c'est de réaliser des figures selon des critères établis donc par les règlements on va dire, donc c'est un petit peu, on pourrait comparer ça au patinage artistique. Donc le patineur effectue des figures, les juges sont une dizaine, ils mettent des notes, celui qui a la meilleure note gagne. Donc nous c'est ça, on a 10 à 15 figures à réaliser dans le ciel devant les juges. Et en fait, avec toutes les joies du jugement qui peuvent exister comme en patinage, celui qui finit avec la meilleure note va gagner. Donc ça, c'est la voltige. Ensuite, la course d'avion, là, c'est un contre-la-montre. Donc c'est, je pense que voilà, les gens ont déjà vu, c'est des avions qui passent entre les pylônes gonflables. Donc là, le but, c'est d'être le plus rapide. Donc celui qui a le chrono le plus rapide gagne, mais on passe les uns après les autres, du coup. On n'est pas tous en même temps.
Ah, parce que dans la voltige, vous êtes tous en même temps en l'air, c'est
non,
ça?
Non, en fait, non, on est toujours seul.
Ok,
on
d'accord.
Est toujours... Mais il y a des courses d'avions où il y a plusieurs avions en même temps.
Ah ouais?
C'est des courses, ça s'appelle les courses de Reno, c'est aux États-Unis, c'est une course très connue qui existe depuis une cinquantaine d'années. Donc voilà.
C'est un peu plus dangereux de ce fait-là parce qu'il faut prendre en compte les autres, c'est ça, j'imagine.
C'est sûr, c'est un petit peu plus dangereux, effectivement. Il y a quand même quelques accidents.
Okay.
C'est déjà arrivé dans l'histoire. Mais... Alors, nous, en course, on a eu un avion qui a touché l'eau, mais il n'y a jamais eu d'accident plus grave. Quoi.
Ok, d'accord. Ouais. Ok, donc, voilà, t'es lancé, donc c'est ça. Et...
Oui.
Et donc, quel est le parcours ensuite pour qui t'amène à devenir. Professionnel en fait, à te lancer là-dedans en tant que pro.
Mais alors après, justement, c'est. Alors, en gros, moi je suis installé du côté de Lyon. Il y a eu une période compliquée dans le travail aussi, puisque je n'étais plus gérante, j'étais redevenue caissière en fait. Pour pouvoir me payer mes heures de vol, J'avais pris un studio, je me rappelle, de 20 mètres carrés, un truc le moins cher possible. Et en fait, dès que je pouvais, j'allais donner des services à l'aéroclub où j'étais. Donc, je faisais du secrétariat, je lavais les avions. Enfin, je faisais tout un tas de choses qui pouvaient me permettre, en échange, de faire ce qu'on appelle des convoyages d'avions. Donc, ils me donnaient l'opportunité d'amener les avions en mécanique. Et en fait, grâce à ça, j'ai pu financer mes heures de vol pour ce qu'on appelait le mûrissement et devenir pilote pro. Okay. Et oui, parce que sinon, en fait, c'était pas avec mon salaire, je sais plus combien j'avais, 700 euros par mois ou... Enfin, voilà, j'avais pas un salaire comme payer... je pouvais rien me payer du tout, autre que à manger et payer mon loyer. Donc, du coup, voilà, grâce au soutien aussi de mon club et ils ont tellement vu ma volonté qu'ils m'ont aussi aidé. Et donc, du coup, ça m'a permis de pouvoir gravir les étapes pour ensuite, derrière, avoir au moins les heures de vol minimales, 200 heures, pour faire pilote professionnel.
Ça coûte combien une heure de vol? Parce que depuis tout à l'heure, effectivement, tu parles beaucoup d'argent, mais je ne t'ai pas demandé combien ça coûte.
Alors, une heure de vol, alors aujourd'hui, ça va coûter... Alors, il y a mon petit aéroclub à Valréas où ça va coûter dans les 80 euros de l'heure. Ça peut aller entre 80 et 150 euros de l'heure sur un avion école de base pour apprendre à piloter. Donc après, un brevet de pilote privé, ça va faire entre, ça va coûter entre 7 et 10 000 euros environ. Okay. Et après, alors un brevet de pilote professionnel, là, c'est beaucoup plus cher.
C'est 200 heures, donc quasiment
oui,
5
quelqu'un
fois plus,
qui part à zéro, ouais, parce qu'après, il y a des heures de bimoteur, etc.
Okay.
On est sur des budgets qui sont proches des 100 000 euros pour partir à zéro. Hein. Donc bon.
Quand t'es, quand t'es caissière dans une pompe à essence,
c'est
effectivement, c'est long, quoi.
Ouais. Ouais. C'est, ça, enfin, sur papier, c'est inaccessible et clairement, la plupart des gens m'ont dit fais autre chose parce que j'ai même, alors j'ai fait plusieurs choses. Hein, j'ai fait un prêt à la banque étudiant. J'ai pris les risques après. Hein, et du coup, j'ai tenté du fait d'avoir travaillé dans les stations-service, j'ai tenté ce qu'on appelle un fonds GESIF. Alors ça n'existe plus, je crois. C'est un congé de formation. Et du coup, j'ai tenté plusieurs fois. Ça n'a pas toujours marché. Mais au bout d'un moment, à force d'insister, j'ai réussi à obtenir une partie de ma formation payée, ce qui m'a aidé à.
Alors,
à,
c'est,
à
le fonds GESIF en tant que tel n'existe plus, je pense, mais les boîtes peuvent toujours te payer des. Comment dire, des heures de formation. Et notamment, je sais que tu peux passer le permis grâce à ça, quoi, si tu n'as pas le permis de voiture. Alors, je ne sais pas, après, je ne vais pas creuser sur tout ce qui est aéronautique.
Mais non, mais je pense qu'après, il y a... C'est pour ça, bon, j'entends encore des gens dire « Oui, mais toi, tu as de la chance, etc. » Et en fait, non, je pense qu'il y a toujours, il y a toujours un chemin, mais il faut vraiment creuser. Et en fait, si on cherche bien, il y a toujours moyen de trouver comment arriver à son but, à ses rêves. Et finalement, c'est ça qui est important. C'est voilà, moi, je suis là pour dire aux gens, mais non, parce que là, en fait, j'ai vraiment une vie. Enfin, je réalise ma chance. Il y a tout qui brille. Enfin, franchement, ma vie, elle est magique. Hein. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est magique. Aujourd'hui, je vis de ma passion. Mais quand je vois tout le chemin parcouru et les galères et tout, je me dis que oui, effectivement, à un moment donné, il fallait que j'y croie. Parce que quand tout le monde autour dit fais autre chose, oublie, fais pas ça. C'est sûr que oui, il faut vraiment se battre pour continuer dans le chemin dans lequel on veut aller, malgré les gens qui disent non, quoi. Enfin, c'est ça.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
C'est ça, t'as eu quasiment entre tes 18 et tes 25 ans, donc si j'ai bien compris, que des barrières pour pas y arriver, quoi, c'est ça?
Oui, des barrières, et puis, bon, on a toujours un peu sa fierté, mais je vivais voilà, dans des conditions... Le plus minimal possible afin de pouvoir... Chaque euro était là pour financer la passion. Alors, sur le coup, je me disais peut-être que je jetais l'argent à la poubelle, hein, j'en sais rien, parce qu'il aurait peut-être fallu que je le garde pour faire autre chose. Mais en même temps, je me disais... quelque chose me disait que ça allait marcher. Okay. Et qu'à force d'insister... Et en fait, c'est ça, quand je parlais un peu de l'énergie, enfin, quand on est vraiment... on sait ce qu'on veut, y a des choses qui marchent. Et... Il faut juste être un peu patient et à l'écoute des signaux, à l'affût des choses qu'on peut utiliser pour aller plus loin. En fait.
Quand tu disais que quand tu fais ton premier cours de vol, tu n'as pas forcément un objectif en tête d'en faire ton métier, etc. C'est venu comment, en fait? C'est venu avec le temps, petit à petit, où tu t'es dit, OK, en fait, je suis en train d'investir, moi, dans ma future carrière, une carrière qui me fait kiffer aujourd'hui?
C'est venu. Alors, c'est les rencontres. En fait, c'est au fur et à mesure des vols, je pense que je me débrouillais bien aussi. Mon instructeur a vraiment... En fait, ils ont fait un travail inverse pour me remodeler en mode « je suis capable ». Parce qu'au début, je pensais pas que je pouvais. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que piloter un avion, c'était un métier aussi très pragmatique, que c'était pas non plus nécessaire... d'avoir fait polytechnique ou enfin voilà de et c'est aussi ce que je voudrais dire aux gens, c'est-à-dire que aujourd'hui on peut devenir pilote de ligne avec un bac. Donc Air France par exemple fait des recrutements massifs en ce moment. Alors moi je suis sorti de l'école en 2008, il y a eu la crise, ça a été fermé pendant presque 10 ans. Aujourd'hui, ceux qui sont là et qui écoutent, enfin si vous avez envie de faire un métier de rêve qui vous fait voyager dans le monde entier avec des conditions extrêmement intéressantes, c'est sûr que là, Air France paye tout. Il paye toute la formation, donc c'est une formation qui vaut même plus de 100 000 euros qu'il propose, et vous êtes rémunéré, enfin vous êtes déjà intégré à la compagnie, donc c'est quelque chose qui est intéressant.
À partir du bac,
intéressant.
C'est ça que tu dis ?
À partir du bac, ouais. Okay. Il faut un bac. C'est donc anciennement, on aurait dit il faut un bac plus 2, bac plus 4. Aujourd'hui, ils se sont rendu compte que un bon pilote, c'était pas forcément quelqu'un qui avait fait des hautes études. Alors, ouais. Ceci n'empêche pas cela, mais en même temps, quelqu'un qui a un bac peut très bien s'en sortir et piloter des machines dans le ciel du monde.
En tout cas, merci pour le bon plan. Parce
ouais,
que
voilà, c'est un bon plan, je pense. Et pareil, l'armée recrute aussi avec le bac. Donc là, ils recrutent pas mal de pilotes, je crois, l'année prochaine. Donc pour ceux qui ont plus le goût de l'adrénaline et voilà, de l'esprit militaire, etc., l'armée recrute des pilotes tous les ans et ils en cherchent pas mal en ce moment, je crois aussi.
Et c'est pas un pont, toi, que t'aimerais faire, toi, aujourd'hui ou peut-être demain, ou c'est trop tard pour toi et t'as laissé passer le cap dans ta vie ?
Et non, alors pour moi l'armée c'est trop tard, je peux pas y retourner, enfin je peux pas y aller, mais en même temps j'aurais pas envie parce que vu mon fonctionnement aujourd'hui, je suis un oiseau libre qui parle dans tous les sens, donc je me verrais moins, alors c'est je comprends aussi l'armée prend des gens plus jeunes, parce que quand on, voilà, moi j'ai ma vie maintenant, j'ai organisé toute ma structure,
oui, on va en reparler,
et finalement j'arrive à voilà à vivre de ma passion, donc après voilà je pense que là je suis bien comme je suis, mais par contre j'avais qu'un gros regret, enfin mon immense regret de pas avoir été dans l'armée, c'est que je me suis dit que autant un pilote de Rafale pourra un jour faire de l'Airbus A320 ou un autre Airbus ou un Boeing, autant un pilote de ligne pourra jamais faire du Rafale. Enfin, voler en rafale, c'est quelque chose qui est complètement inaccessible. Même si j'avais 200 000 euros, je pourrais pas le faire.
T'as jamais eu l'occasion de le faire ?
Bah si, il se trouve que j'ai réalisé ce rêve. Et en fait, depuis que j'ai réalisé ce rêve, c'était le plus beau jour de ma vie. Et en fait, depuis que j'ai réalisé ce rêve, je me sens apaisé. Parce que je me dis, je l'ai fait. Je sais ce que c'est maintenant. Je serai jamais pilote de chasse, mais je l'ai fait. Et en fait, presque un des objectifs de ma vie, c'était de me dire, trouver un moyen de pouvoir faire ce vol en chasseur. Alors j'ai pu le réaliser, j'ai trouvé.
Alors, comment t'as fait ?
Bah en fait c'était à l'occasion d'un reportage pour M6 66 minutes. J'ai proposé donc au service de l'armée de l'air d'information de faire justement cette expérience avec le M6 66 minutes. Et du coup ils ont accepté, ils ont été vraiment super et voilà, franchement c'était du gagnant-gagnant et on était vraiment heureux. Chacun d'avoir réalisé cette expérience, en fait.
Et t'avais toujours ce truc en tête de dire un jour j'y arriverai. T'as eu l'opportunité un jour qui arrivait. J'imagine M6 est venu te voir en te disant toc toc, on voudrait bien faire un reportage. Et tu t'es dit ok, c'est le bon moment ou jamais de le placer, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ben, en fait, bon, après, c'est un concours de circonstances qui a fait que j'ai eu cette idée, en fait, avec une autre relation que j'avais dans l'armée. J'ai pensé à mettre cela en commun. Au mariage de ma meilleure amie, j'ai rencontré un pilote de Rafale qui était le témoin de son mari, qui m'a lui poussé à le faire. Et du coup, en fait, c'était vraiment tout s'est imbriqué pour que j'ose, parce que comme souvent je dis, il y a une phrase que j'aime bien, c'est avant de demander, la réponse c'est toujours non. Donc c'est vrai que bon, quand j'ai envoyé la demande, je me suis dit quelle honte, enfin ils vont peut-être me dire non et tout ça, mais en fait non, parce que si j'avais pas, enfin au pire ils m'auraient dit non, mais c'est pas grave, vaut mieux demander. Bon, après, ça paraissait fou, hein, mais...
T'avais pas grand-chose à perdre, autre qu'une petite blessure d'ego de te dire « Ah bah ok, ça. Ils m'ont envoyé bouler, quoi. »
Ouais, et ça marche pour plein de choses dans la vie, en fait. Faut pas hésiter à demander, enfin voilà, c'est ça. Après, je sais que c'est pas à la portée de tout le monde, mais quand je reviens à la petite fille que j'étais, hyper timide et cachée dans les placards, faut se dire, voilà, ça me demande encore plus, mais à force de le faire... je suis plus à l'aise de le faire, en fait. Donc, mais c'est sûr que c'est un immense secret, quoi. Pas hésiter à demander, aller voir les gens, se renseigner, demander les choses, et voilà, au pire, une blessure d'ego, bon, c'est pas...
Oui.
On s'en remet, quand même.
On s'en remet. Je voulais parler avec toi, mais en fait, de ce que tu racontes là, je pense qu'en plus, t'aurais été terriblement malheureuse dans l'armée, parce que t'as l'air d'être une personne qui a besoin d'aller trouver par elle-même les chemins, d'aller trouver les moyens de bidouiller, entre guillemets, tu vois, tout ce que tu racontais sur comment t'as fait pour financer tes 200 heures de vol. Et c'est le genre de truc, à mon avis, dans une structure comme l'armée qui peut pas passer, quoi, parce que t'es obligé de passer par le commandant, etc., etc., quoi. Non ?
Oui, alors, effectivement, alors je sais pas si je me suis construite comme ça avec les années.
Ah oui.
Ou si, enfin après, peut-être que j'aurais été modelée dans un autre système. En fait, c'est ça, c'est la grande interrogation.
Ouais.
Est-ce que finalement, le fait d'avoir été dans l'armée, ça m'aurait changé ? Est-ce que j'aurais été une maligne différente aujourd'hui ? Je sais pas. Je sais pas répondre à cette question parce qu'il y avait quand même. Je pense que le cadre militaire m'aurait bien convenu.
Plus, ok.
Après, je pense que là, à un moment donné, c'est trop tard. Quand,
ah oui, bien sûr.
J'ai compris qu'il y avait d'autres choses, d'autres moyens. Là, aujourd'hui, effectivement, quand je suis avec des gens un peu plus conventionnels, qui ont l'habitude de passer par la hiérarchie avant de faire quelque chose, moi, j'ai tendance tout de suite à demander à tout là-haut, au grand patron, plutôt que de passer par un tas de personnes. Après, j'ai aujourd'hui la chance d'accéder facilement, je dirais pas à tout le monde, mais voilà, c'est vrai que... J'ai un métier qui fait vraiment rêver. Si les gens voient une démo réalisée, c'est impressionnant. Voilà. En plus, le côté de voir une femme réaliser ce genre de figure, c'est aussi dommage, hein, d'ailleurs, hein, parce que on devrait se dire c'est pareil. Mais il y a
personne.
Un côté,
oui,
voilà. C'est surtout les enfants qui sont ah bon, mais c'est une fille qui pilote. Ils sont bluffés, quoi. Enfin, ils sont.
C'est dramatique parce que, comme tu disais, t'étais gamine, t'étais fan de Top Gun. Et bon, moi aussi, j'étais fan de Top Gun, j'ai regardé Top Gun quand j'étais gamin. Mais en fait, il n'y a pas de Top Gun avec une héroïne, quoi. Tu vois, il n'y a pas de Top Gun avec une Tom Cruise aujourd'hui. Donc, c'est
et
ça
oui.
aussi qui fait qu'il n'y a pas de possibilité
y a pas de modèle,
d'identification.
Il n'y a pas de modèle, mais c'est comme dans les super-héros. Je crois que maintenant, ils mettent un peu des femmes.
Ah bah ça y est.
Ça commence à venir.
Oui,
parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être un marché aussi.
Exactement.
Non, mais bon, c'est vrai que les super-héros, c'était... Enfin, on dit... J'ai vu un humoriste l'autre jour qui disait les petits garçons, on leur dit tu deviendras un super-héros, et les petites filles, elles deviennent une princesse. Mais donc du coup, les jouets pour les petites filles, c'est le maquillage, le coiffure, les trucs comme ça autour d'une princesse, et les garçons, tout de suite, c'est la confiance en soi, t'es un super-héros, tu vas y arriver, tu vas tout... Et donc du coup, c'est un peu, voilà, c'est un peu ça, c'est cette espèce de préjugé qu'une fille peut pas être un super-héros.
Bon, c'est en train de changer.
Voilà.
Hein, tu vois,
c'est
moi,
en train de changer.
De là où je suis, pardon, sur Mademoiselle, je vois depuis 15 ans, ça évolue très très fort. Et il y a de plus en plus, bah, notamment, tu vois, toi, t'es en train de venir parler de ça. Et je pense qu'il y a 15 ans, t'avais pas forcément de rôle modèle qui aurait pu venir parler. Quoi, tu démarrais tout juste dans ta carrière, quoi.
Et oui, c'est ça. Bah, moi, c'est un peu ce qui m'a freiné au départ, c'est qu'il y avait pas de modèle pilote de chasse, par exemple. J'aurais eu l'info qu'il y a une femme déjà dans l'armée, bah, je serais peut-être allé la voir, enfin, j'aurais essayé de la contacter pour lui demander du soutien, comment faire, etc. Alors que quand il n'y a pas de modèle, c'est vrai que...
Tu aurais pu lui envoyer un message par Instagram, par
oui,
exemple.
Voilà, mais c'est ça. Mais c'est exactement ça, quand je dis il n'y a pas Internet. Aujourd'hui, franchement, les jeunes qui veulent aller quelque part, avec les réseaux, il y a une opportunité formidable. Hein. Je pense que... contacter les bonnes personnes. Après, ils répondent pas, mais faut toujours tenter sa chance, comme je disais.
Le truc dont je voulais te parler aussi, c'est comment ça se passe quand t'es en vol ? Par exemple, je vais t'expliquer, c'est que j'ai eu un boxeur, champion du monde de kickboxing. Et en fait, je lui demandais comment ça se passe quand t'es sur le ring et que t'es face au gars. J'aimerais bien que tu me fasses un peu le même exercice, si tu veux. Comment ça se passe quand t'es en vol et que t'as, je sais pas, un exercice de voltige à faire ? C'est quoi que tu ressens en toi ? J'aimerais bien, je sais pas si tu peux arriver à le transmettre comme ça aux gens qui sont en train d'écouter, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu vois ce que je veux dire ?
Alors, déjà, alors quand on va parler par exemple d'un vol sur un championnat, donc la veille, je vais recevoir un programme avec des figures que j'ai jamais, enfin, pas que j'ai jamais réalisé, mais un programme que j'ai jamais réalisé. Donc, c'est une séquence qu'il va falloir que j'imagine au sol avant de la réaliser en vol. Donc, déjà, il y a toute une partie, la plus importante partie, qui est ce qu'on appelle la visualisation. Et donc, cette visualisation, elle va permettre de s'imprégner du programme. Alors, pour avoir un ordre d'idée, on fait un tour et demi en une seconde. Donc, l'avion fait donc ce qu'on appelle un tonneau. Ouais. Donc, il fait un tour et demi en une seconde, sachant qu'on doit faire des quarts de tour, des huitièmes, des trois quarts, des un tour trois quarts. Donc, tout ça, c'est vraiment un arrêt de tonneau, par exemple, si on fait trois quarts de tour. C'est, on parle de l'ordre de un dixième de seconde. Donc, c'est bien en dessous du temps de réaction. Donc après, c'est même presque plus du temps de réaction, c'est de la mémoire musculaire. C'est-à-dire qu'on va arrêter les figures, à force de le faire, on va savoir quand l'arrêter. Donc en gros, il y a tout ce travail de visualisation, et là, c'est un peu comme une transe, quoi. On se met dans le cockpit, on imagine qu'on est on n'est pas dans le cockpit, mais on s'imagine dans le cockpit, et en fait, on révise les figures, et il y a plusieurs manières de visualiser. Ça peut être interne, donc là, on imagine qu'on est dans l'avion, on peut mimer l'aile, etc. Enfin, on va vraiment utiliser des techniques. Ça va ressembler un peu à un karatéka qui révise ses figures aussi. Ouais. Et ensuite, externe, donc c'est-à-dire que je peux être à la place du juge et imaginer l'avion qui vole. Donc une fois que j'ai réalisé toute cette séquence, j'ai fait aussi des exercices de respiration pour me relaxer et je me suis échauffé physiquement. Là, je monte dans mon avion. Alors là, je suis toujours très stressée à ce moment-là. Parce qu'il y a toute la procédure de s'attacher, d'être sûr d'avoir tous les objets, etc., les gants, le casque, etc. Et à un moment donné, je suis attachée dans mon avion, je suis harnachée, je ferme la verrière et je démarre mon moteur. Et là, d'un seul coup, j'ai une sensation d'apaisement, je me sens bien. Parce que ça y est, c'est fermé, je suis seule avec mon avion. Et là, j'ai d'un seul coup, je suis bien, je sais que je suis prête et j'y vais. Ensuite, je décolle, je fais ce qu'on appelle les figures d'échauffement. Donc là, toujours le petit stress, mais qui va bien. Mmh. Et ensuite, donc là, je vais m'élancer pour entre 10 et 14 figures. Donc pendant ces figures, je vais prendre ce qu'on appelle des jets. Donc je vais peser très très lourd. Alors les jets, en fait, c'est quand on fait des figures, quand on est sur le sol, on est à 1 G. C'est-à-dire qu'on subit notre poids. Dans l'avion, on va faire jusqu'à 10 G. Donc on va subir jusqu'à 10 fois notre poids. Donc c'est un environnement dans lequel... on pourrait comparer un match de boxe. Hein. En fait, on prend des coups pendant le vol. Donc, du coup, on a vraiment des variations de rythme cardiaque. On va prendre des jets assez, assez forts. Mais pendant ce temps-là, il faut quand même rester concentré. Mmh. Donc, au milieu de ces figures très intenses physiquement, on va devoir faire des rotations et faire des arrêts très précis. Donc, en fait, c'est toujours... On est en train de se prendre des coups de poing, mais on doit derrière faire des gestes très précis. Donc il faut donc éviter ce qu'on appelle le chaos chez nous, c'est le voile noir.
Le blackout, c'est ça.
Oui, c'est ça, c'est le blackout. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a un blackout? C'est qu'en fait, durant des figures, quand on prend par exemple 10 G, le sang va circuler d'une manière verticale. Ouais.
Je suis malade.
Excuse-moi, je sais pas comment je vais remonter ça, mais j'étais décédé. T'étais en train de parler justement de blackout et du fait que...
Oui, du coup, voilà. Donc, pendant qu'on est en vol, quand on prend des jets, le gros risque du pilote de voltige, du pilote de chasse, c'est le blackout. Donc, ce qu'on appelle le voile noir. Alors, pourquoi le voile noir? Parce que d'un coup, devant les yeux, on va avoir un effet de rideau. Et en fait, la première chose qu'on va perdre, c'est la vue. Donc, à ce moment-là, quand on commence à avoir cette espèce de voile, c'est le moment de relâcher la pression. Ça veut dire que le corps, en fait, le cerveau n'est plus irrigué. Donc du coup, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à contrer, en fait. Hein.
Tu fais comment?
Alors moi, je fais comment? Alors après, j'ai des manœuvres. Donc déjà, c'est une bonne préparation physique. Tout ce qui est gainage, en fait, est hyper important. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de maintenir le sang dans le haut du corps. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment gainer des cervicales, aux abdos, en passant par les jambes. Alors, les pilotes de chasse, par exemple, ont des pantalons anti-jets. Donc, ils ont en gros ce gainage des jambes artificiel où les jambes vont être resserrées pendant les figures. Et alors que nous, on n'a pas. On n'a pas de pantalon anti-jets, donc on a vraiment que notre gainage qui va permettre de bloquer ce flux de sang qui disparaît du cerveau. Ensuite, il y a aussi des manœuvres. Donc, c'est un peu de l'apnée. En fait, on va se mettre en apnée. Mais de temps en temps, on va jeter un jet de respiration pour quand même, parce que ça peut durer jusqu'à 15 secondes, hein, le moment d'apnée. Et ensuite, c'est des manœuvres d'échauffement, en fait, que je fais en début de programme. Donc ça, les gens le font pas. Moi, ce que je fais quasiment, c'est que je provoque le voile noir. Alors, ça peut faire un peu peur comme ça. Wow. Et je monte en attitude, je fais un virage, je gère avec mon manche, enfin, je me contracte pas, je me laisse aller. Et dès que je sens que c'est un peu, que je suis un petit peu voilé, je relâche. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que mon corps va se mettre en alerte pendant une quarantaine de minutes parce qu'il a compris que il allait faire un programme de voltige. Mais par contre, je préfère que ça m'arrive là-haut quand je suis en sécurité et que je le fais de moi-même, plutôt que pendant mon programme, en plein milieu, où soit je vais rater une figure parce que je vais pas faire ce qu'il faut, soit, bon, après, je voudrais pas m'évanouir non plus, sachant que quand ça arrive, c'est toujours vers le haut, donc ça dure quelques secondes. Le gros risque, c'est surtout qu'on rate une figure.
Oui, c'est ça.
Mais bon, après, cela dit, il y a déjà eu des accidents aussi, des pilotes de chasse ou qui ont eu ces problèmes-là. Donc, on prend ça vraiment au sérieux okay. au niveau de la sécurité.
Ce que tu es en train de dire, c'est que le blackout, c'est pas forcément, t'es en train de t'évanouir, c'est que c'est un.
Exactement. C'est un peu comme, on pourrait comparer à un malaise vagal, en fait. Enfin, c'est un début de malaise, en fait. Mais si on arrête instantanément, quand on arrête de prendre des jets, ça s'arrête. Enfin, c'est comme okay. si le rideau se ferme et se rouvre. Donc, on peut vraiment le piloter presque. Alors après, ce qu'il faut pas, c'est aller plus loin. Quelqu'un qui irait plus loin, là, il prendrait le risque de okay. s'évanouir. Voilà. Mais après, ça peut durer 2-3 secondes. Mais bon, ça peut durer 2-3 secondes. Après, quand la personne se réveille, elle comprend pas forcément ce qu'elle est en train de faire. Ouais. Donc, c'est ça le risque.
Ok. Très bien. C'est 10-15 figures. Enfin, les figures imposées dont tu parlais, ça dure combien de temps un programme au
Alors,
total
un programme de voltige, ça va durer entre 6 et 9 minutes environ. Donc, c'est 6 à 9 minutes de cardio. Alors, on n'est pas sur du cardio, on n'est pas sur une fréquence cardiaque maximale. On est sur du 80%, on va dire. Mais bon, il faut tenir 7 à 9 minutes. Et surtout, dans cet environnement... c'est fou parce que moi, je monte à 150 pulsations alors que je suis assise dans une chaise quand même à la base. Hein. Enfin, c'est pour dire à quel point ouais. ça reste quand même des mouvements de manche assez amples. Il y a quand même de la force dans le manche. Moi, j'essaye d'être très explosive, ce qui me demande un gros travail avec des élastiques en salle. Et du coup, pourquoi ? Parce que j'essaye de voler, alors je dirais, comme les meilleurs hommes, en fait, parce que le style des meilleurs est très explosif.
Okay.
Mais en fait, ça me demande des gros efforts physiques pour en arriver là.
Tu veux dire qu'il y a une différence entre hommes et femmes à ce niveau-là, c'est ça ?
Alors après, physiquement, en tout cas. Oui, il y en a une parce que...
Ça se joue.
Enfin, pour moi, c'est la base. Une femme a moins de muscles qu'un homme. Donc forcément, j'ai un ami à moi, enfin mon meilleur ami qui est pilote dans l'armée et il a fait 4e au championnat du monde. C'est son premier championnat du monde. Et du coup, le compliment qu'a fait son coach, c'est... ce qui a surpris le coach au début avec Florent, c'est sa puissance, en fait. Et en fait, Flo, c'est quelqu'un de... Il est très... de base, très puissant, très, très costaud, très... Donc là, ça m'a tout révélé, en fait. Ça veut dire que la puissance, quand même, ça fait... Bon, sans maîtrise, la puissance n'est rien, comme
Bien
on dit.
Bien sûr.
Mais la puissance, c'est important.
Ok,
donc, donc je la travaille énormément, sachant que je pars de plus loin, étant une femme. Après, bon... Ouais, pour arriver au niveau des meilleurs, voire les dépasser, je pense que je peux y aller, quoi. Je peux m'entraîner. Donc voilà, je fais beaucoup de... J'essaie de gagner de la force et de l'explosivité, en fait.
Ok. Et donc, on va parler un peu de l'aspect business maintenant. Parce que, en fait, tu me disais, là, juste avant qu'on démarre, que t'as créé ta structure et qu'aujourd'hui, en fait, tu réussis à vivre au-delà de l'aspect juste... tu fais des courses. Parce que, est-ce que... C'est, donc, Red Bull te sponsorise, c'est ça ? Donc, sur l'aspect vraiment purement sportif ?
Alors non, moi, je suis pas athlète Red Bull, en fait.
Ok, d'accord,
je
savais même pas.
Je participais à l'événement. Alors, pour la petite histoire, les courses Red Bull ont cessé en... Donc, c'est la dernière saison, là.
Ok.
Ça va reprendre l'année prochaine, certainement, mais ça sera plus Red Bull, en tout cas, ça, c'est sûr. On attend des confirmations, mais bon, normalement, ça devrait reprendre sous un autre nom. Donc Red Bull, c'était l'organisateur, comme le trophée Andros, Andros. Mais du coup, moi, je travaille avec donc des partenaires. Ouais. Donc j'ai BMW qui me suit depuis pas mal d'années maintenant. J'ai aussi Michelin, donc marque française qui me suit depuis 2 ans. Voilà, j'ai donc Alcim, une boîte de simulateurs. Donc je travaille vraiment avec des partenaires. Alors, l'idée, c'est quand même d'avoir une belle aventure ensemble, parce que c'est comme ça que, en tout cas, que moi, je délivre mon meilleur au niveau du retour sur investissement, on va dire. Donc, pour arriver à mon objectif de devenir championne du monde de voltige, c'est sûr que sans mes partenaires, ça serait pas possible. Et donc, aujourd'hui, j'ai de la chance de pouvoir faire de
donc,
ma passion
financent,
au métier.
C'est ça. Enfin, ils te financent, ils te permettent de pouvoir justement vivre de ta passion, tout simplement.
Oui, exactement. Alors, donc ces sponsors-là me financent. J'ai aussi des, des mécènes. Et puis surtout, je réalise aussi des shows aériens. Donc là, je réalise, par exemple, au mois de mars-avril, je vais aller au Chili pour faire 12 démos sur un gros meeting. C'est un peu comme le Salon du Bourget. Ensuite, je fais pas mal de conférences aussi en entreprise. Alors, j'essaye quand même de me concentrer sur la partie athlète. Donc, plus j'arrive à trouver du sponsoring, plus j'arrive à me concentrer. Parce qu'en général, le but, c'est quand même que je puisse m'entraîner vraiment pour mon sport. Après, voilà, j'essaye de trouver le bon équilibre entre sollicitation business et faire entrer de l'argent dans l'entreprise et quand même me concentrer et laisser de la place à l'athlète pour réaliser ses performances.
Voilà. Et tu fais tout toute seule, ou presque, c'est ça ?
Oui, alors j'ai de la chance d'avoir des personnes formidables autour de moi qui m'aident à leur façon et comme elles peuvent. J'ai un préparateur physique, j'ai un préparateur mental, un coach technique, j'ai maman aussi qui m'aide pas mal pour mes textes, etc., pour tout ce qui est traduction, écriture, les newsletters, etc. Donc j'ai Victoria aussi qui m'aide pour tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc j'ai quand même, j'ai une équipe autour de moi. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'aimerais bien trouver plus de budget pour avoir vraiment une équipe, on va dire, en tout cas au moins une personne à plein temps qui pourrait m'aider et me décharger de toute la partie logistique et administrative qui fait que je me concentre un peu moins sur les vols. Et bon, j'aimerais bien arriver un peu plus me concentrer quand même.
Ok. Comment tu peux faire pour en arriver là, en fait ? Parce qu'il faut aller chercher plus de sponsors, c'est ça ? Ce serait un peu l'idée ?
Oui, exactement.
Des sponsors qui payent mieux, j'en sais rien.
Oui, après, c'est trouver du sponsoring, trouver du mécénat. Ce que je vais faire, c'est qu'au mois de février, je vais faire une soirée dans mon hangar où je vais investir là-dessus, simplement pour inviter les dirigeants d'entreprise qui sont plutôt de la région sud,
ouais.
Sud maintenant, c'est plus PACA, de la région sud, pour attirer un peu des partenaires locaux afin de pouvoir vivre une aventure, mais qu'ils puissent aussi participer, parce que le but, c'est pas non plus... c'est pas de dire je prends de l'argent, c'est vraiment de dire on vit une aventure en commun, mais qu'il y ait une possibilité de partager et qu'eux puissent exploiter le partenariat au maximum pour que derrière ils soient contents et qu'on puisse reproduire cela sur des années, en fait.
Okay.
C'est plus comme ça.
Bon, alors si vous voulez rencontrer Mélanie, si vous voulez donner des sous à Mélanie, je vous mettrai les liens de son site dans les notes du podcast. Qu'est-ce qu'on peut... c'est quoi tes objectifs à venir là, dans les mois, dans les années à venir ?
Alors là, donc les objectifs...
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ?
Alors, pour... Pour revenir déjà à la saison 2019, c'est une saison mitigée un petit peu. Alors j'ai eu la grande joie de pouvoir remporter le trophée Neil Williams, qui est un trophée de champion d'Angleterre, en fait. Donc j'ai fini première de ce championnat je suis vraiment contente pour ça. J'ai fait vice-championne de France. En fait, j'ai la double nationalité.
Oui.
Donc du coup j'ai eu le titre anglais, le vice-championne de France. Et mon objectif cette année, c'était d'aller au championnat du monde. Et j'avais vraiment pour objectif de remporter ce championnat du monde, comme toutes mes autres camarades également. Mais malheureusement, ça s'est mal passé. J'ai été disqualifiée sur un programme suite à une erreur de ma part, en fait. J'ai juste pas contacté les juges avant de commencer. Et du coup, c'est une erreur qui m'a disqualifiée. Donc je reste sur une immense déception.
Ok, il faut dire au juge,
oui,
salut, je pars,
salut,
c'est ça ?
Salut, bonjour. Enfin, j'ai pas dit bonjour au monsieur et voilà.
C'est dur.
Non, ça a été un peu dur, mais bon. Voilà, après c'est...
En même temps, c'est intéressant que tu fasses cette erreur-là avec toute cette expérience-là, quoi. Tu vois, c'est fou quand
même. C'est pour ça que j'en parle, parce que finalement, je suis convaincue que c'était pas le moment. Après, l'erreur, elle est immense. C'est vraiment quelque chose d'évident. Alors, je pense que j'étais dans de l'hyperfocalisation. C'était pas du stress, c'était juste que j'étais dans mon job de pilote et pas dans mon job de parler à la radio.
Okay.
Et donc, on a fait en tout 250 vols sur le championnat. Il n'y a qu'une personne qui a été disqualifiée, c'est moi. Donc, c'est comme ça. Après, je ne vais pas en faire un... tout un... Je vais pas en pleurer pendant des mois et des mois, mais je reste sur une grosse déception. Donc là, la saison prochaine 2020, donc je refais le championnat d'Angleterre, je refais le championnat de France et les championnats internationaux, donc en tout cas championnat d'Europe au niveau élite qui est le plus haut niveau, et voir peut-être championnat du monde au niveau advanced qui est le niveau en dessous, on va dire.
D'accord.
Donc voilà, et ensuite j'espère que les courses d'avion vont reprendre dès le mois de septembre et repartir sur une saison. Après c'est un peu encore la grande inconnue, mais j'espère sincèrement que ça va reprendre parce que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Ok, merci beaucoup Mélanie.
Avec plaisir, merci.
Si vous voulez suivre Mélanie, donc je vous mettrai tous les liens, son site, Instagram j'imagine, etc. etc. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait découvrir, enfin de m'avoir fait découvrir déjà à moi, ton sport, ta discipline et ton parcours. Et puis j'espère que ça aura plu et peut-être même inspiré des jeunes hein, qui veulent s'y mettre et qui pourront t'écouter toi par rapport à t'avais pas de Mélanie quoi, tu vois, en 1997, ça c'est fou quoi. Donc merci beaucoup pour ça.
Et ben avec plaisir Fabrice.
Merci bien, ciao.
Ciao.